Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres.
Bonjour, je m'appelle Catherine Goulet-Cloutier, en remplacement de Kate Bouchard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Éliane Dussault, qui est étudiante au doctorat en sexologie à l'UQAM sous la direction de Natacha Godbout et la co-direction de Mylène Fernet. Bonjour Éliane.
Bonjour Catherine, merci beaucoup de me recevoir.
Ça fait plaisir. Donc, vous allez nous parler aujourd'hui de vos recherches doctorales qui portent sur les expériences de trauma interpersonnel dans l'enfance, la présence attentive ou pleine conscience et le bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Donc, tout d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet-là dans le cadre de votre thèse?
En fait, je dirais que c'était un intérêt pour la sexualité épanouissement. Des fois, on parle de sexualité problème dans la société, on parle de difficultés sexuelles, on parle de conséquences négatives de certaines expériences qu'on vit sur notre bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Puis, en fait, vers la fin de mon parcours de bac, j'ai fait un travail sur peut-être la place plus grande qu'on pouvait donner à la spiritualité dans la sexualité. Puis ça m'a vraiment parlé parce que, bon, des fois, quand on parle de spiritualité, on pense à une religion organisée, mais en vérité, la spiritualité, c'est un besoin que l'être humain a naturellement de trouver des réponses à ses questions existentielles, de cheminer et tout ça. Donc, je me suis vraiment intéressée, en fait, à comment est-ce que je peux peut-être pousser davantage la recherche à ce niveau-là parce que je trouvais que c'était pas tant abordé au département. Puis, au département de sexo, d'où je suis affiliée, en fait. Donc, j'ai décidé, pour moi, la meilleure porte d'entrée pour étudier ça, c'était de m'intéresser à la présence attentive, qu'on appelle aussi pleine conscience ou mindfulness, parce que, bon, il y a déjà quand même un large bassin d'études empiriques sur le sujet. Puis, je voyais le potentiel, en fait, transformateur de la présence attentive quand j'ai commencé mes études. Puis là, ça fait en sorte que j'ai contacté ma directrice Natacha Godbout et que Natacha a une expertise sur le trauma. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai commencé aussi à voir la nécessité d'aborder la présence attentive d'un angle sensible au trauma et de l'étudier aussi chez les personnes qui en ont vécu. Donc, c'est ça qui m'a amenée à parler à la fois de bien-être sexo-relationnel, de présence attentive et de trauma interpersonnel vécu durant l'enfance.
D'accord. Puis, est-ce que vous pourriez nous présenter votre thèse en quelques mots?
Bien, je peux décrire vite, vite tout ce que j'ai fait durant le cadre de ma thèse, puis après ça, peut-être on pourra décortiquer davantage là, chacune de ses contributions. Le premier article, en fait, c'est une métasynthèse des études qualitatives qui portent sur la pratique de présence attentive et le bien-être sexo-relationnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Études qualitatives, premièrement, c'est quand on étudie des données avec des mots, en fait, des données sous forme de mots au lieu de données sous forme de chiffres. Donc, au lieu de faire des statistiques, on analyse, par exemple, des entrevues avec des participants qui nous ont raconté leur historique de vie, par exemple. Fait que j'ai regroupé toutes les études qualitatives qui portaient sur la pratique de présence attentive et le bien-être sexo-relationnel. Puis j'ai repris, en fait, tous les extraits de données que ces études-là présentaient, puis j'en ai fait une seconde analyse, ce qui constitue en fait la métasynthèse. Donc, dans cette métasynthèse, j'ai recensé 8 études au total, il n'y en a pas tant que ça, sur la pratique de présence attentive et le bien-être sexo-relationnel. Puis j'ai le fait de réanalyser comme ça tous les extraits dans lesquels les participants nous parlent un peu de leur pratique, ça nous permet de dégager des résultats qui ont un petit peu plus une meilleure vue d'ensemble, en fait, puis qui, bon, ont un regard un peu croisé sur les différentes études dans le domaine. Donc ça a été mon premier article qui a été, en fait, excellent pour peut-être mettre la table, alimenter ma réflexion pour la suite des choses. Le deuxième article, c'est un article qu'on a fait des profils. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a évalué comment différents participantes, participants, rapportaient leurs expériences de trauma interpersonnel durant l'enfance, puis comment ils se distinguaient au niveau de ces expériences-là. Puis après ça, en fonction de ces profils-là, on a regardé est-ce qu'il y a des différences entre les profils au niveau de leur bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Puis bon, le punch un peu de cet article-là, c'est qu'il y a trois profils là, qui étaient présents dans notre échantillon. Puis, comme j'avais la chance d'avoir une base de données qui était à la fois qualitative et quantitative pour cette étude-là, ce que j'ai fait après, c'est que je suis allée chercher les entrevues des participantes et participants des différents profils, puis j'ai fait une analyse plus profonde, en fait, de ce que ces personnes-là avaient à nous raconter sur leur historique de vie. Donc, en tout cas, moi, j'adore la recherche mixte là, parce que ça permet ça. On analyse des choses avec nos... Ben, moi, ça a été dans cette séquence-là. Là, j'ai regardé qu'est-ce que les chiffres me disaient, puis après ça, je suis un peu allée corroborer ou nuancer, en fait, ce que les participants avaient à rapporter au niveau des entrevues. Donc là, j'ai un article qui est publié sur un des profils qui est sorti dans mon deuxième article, puis j'ai un autre article qui est soumis sur un deuxième de ces profils-là. Fait que ça compose vraiment le cœur de ma thèse doctorale là, en quatre articles.
Justement, est-ce que vous pourriez nous les présenter, les trois profils?
Oui, les trois profils. Donc, on a ce qui est particulier dans cet échantillon-là, c'est qu'on avait vraiment l'accent dans l'étude était mis sur l'agression sexuelle vécue durant l'enfance. Moi, je m'intéresse à différents traumas aussi. Donc, je me suis dit, ah, bon, regardons comment ça ressort dans cet échantillon-là, qui est quand même fortement traumatisé. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que l'agression sexuelle durant l'enfance, c'est souvent associé au fait de vivre d'autres formes de victimisation, là. Donc, il y a souvent d'autres formes de négligence ou d'abus durant l'enfance là, auprès des personnes qui vivent des agressions de ce type-là. Donc, on avait trois profils qui sont ressortis. Le premier profil, on l'appelait victimisation plus faible. On avait 50 % des personnes dans ce profil-là qui avaient vécu une agression sexuelle durant l'enfance. 50 % environ la moitié. Puis, ces personnes-là avaient vécu peu d'autres formes de trauma là, dans leur milieu familial. Donc, pas beaucoup de maltraitance psychologique. Donc, c'est pas beaucoup d'insultes ou pas beaucoup de négligence. Donc, des familles qui généralement arrivaient à subvenir aux besoins affectifs de leurs enfants et peu, en fait, de trauma physique. Donc, peu de violences physiques comme battre, frapper, pousser, etc. De négligence physique. Donc, d'éviter de donner le bain, tout ça. Ces gens-là ont généralement, à part l'agression sexuelle, vécu peu d'autres formes de trauma. Puis leur niveau de présence attentive est assez relativement élevé. Ensuite, on a un deuxième profil qui a vécu plus d'agressions sexuelles. Donc, ils sont plus nombreuses à en avoir vécu et des formes de trauma psychologique. Donc, à la fois négligence des besoins affectifs et violence psychologique, donc insultes, cris, etc. Puis ces gens-là ont un niveau de présence attentive plus faible que les personnes du premier profil. Puis finalement, on a un troisième profil qui a vraiment vécu de la multivictimisation, donc qui a vécu presque en entièreté là, des agressions sexuelles durant l'enfance avec de la violence et négligence physique et de la violence et négligence psychologique. Puis ces gens-là, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, leur niveau de présence attentive ressemble à celui du niveau du deuxième profil. Donc, c'est comme si, il y a plusieurs constats à retirer de ça, là. Le premier étant que vivre des traumas psychologiques combiné dans une certaine proportion à de l'agression sexuelle chez plusieurs personnes, c'est suffisant pour affecter le niveau de présence attentive. Puis l'autre chose aussi qui est vraiment importante dans ces profils-là, c'est que dans notre profil qui a vécu peu de formes de victimisation à part de l'agression sexuelle, on a aussi regardé les différences entre les personnes qui avaient vécu de l'agression sexuelle à l'enfance versus celles qui n'en avaient pas vécu. Et dans les différents profils, il y avait peu de différence. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que chez les personnes qui ont vécu de l'agression sexuelle à l'enfance, mais pas beaucoup d'autres formes de trauma, donc potentiellement qui ont peut-être pu dévoiler, qui ont été écoutées, que bon, la situation a été prise en charge, qu'il y a eu un arrêt des agressions, en fait, ces personnes-là sentirent de façon similaire aux personnes qui n'ont pas vécu d'agression sexuelle à l'enfance et qui n'ont pas vécu beaucoup d'autres types de victimisation au niveau de leur bien-être sexo-relationnel. Fait que ça a été un constat important parce que dans la littérature, on a énormément documenté en fait les conséquences néfastes de l'agression sexuelle en l'enfance, mais potentiellement qu'il y a beaucoup de ces recherches-là qui n'ont pas tenu en compte que un des aspects qui explique ces conséquences néfastes-là, c'est qu'il y a d'autres formes de maltraitance qui se produisent au sein de la famille chez les personnes qui vivent ça.
Donc, en d'autres termes, la combinaison des victimisations aurait des répercussions beaucoup plus grandes qu'une agression sexuelle seule, dans un contexte soutenant, par exemple.
Exactement. Puis là, bon, c'est important aussi de ne pas glisser dans l'interprétation que l'agression sexuelle à l'enfance, c'est pas grave parce que, bon, c'est un traumatisme important. Mais ce que la piste d'interprétation derrière tout ça, c'est que potentiellement que le trauma a l'opportunité de se métaboliser et de ne pas rester, puis de ne pas impacter les relations intimes et sexuelle à l'âge adulte. Donc ça, c'était un des profils qui était ressorti. Puis un autre constat qui est intéressant, en fait, c'est qu'en essayant de distinguer victimes d'agressions sexuelles à l'enfance versus non-victimes dans les trois profils, c'était seulement dans le profil 2, donc le profil qui avait vécu maltraitance psychologique et agression sexuelle ou pas agression sexuelle, qui avait des différences. Donc, l'hypothèse derrière ça, c'est que l'accumulation d'expériences traumatiques, oui, elle est plus dommageable, on le voit, mais d'un autre côté, la combinaison de différents traumas au niveau psychologique et au niveau corporel semble en fait la plus délétère pour le bien-être sexo-relationnel à l'âge adulte. Donc, quand je regarde, par exemple, mes victimes d'agressions sexuelles à l'enfance et de traumas psychologiques, ces personnes-là ne sont pas vraiment différentes de mon profil qui a aussi vécu des traumas physiques.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des liens entre la présence attentive et le bien-être sexo-relationnel? Qu'est-ce qu'on en dit dans la littérature? Puis qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches par rapport aux personnes des trois profils, par exemple?
Oui, parfait. Ben, peut-être que je peux raconter l'histoire un peu en termes de comment ça arrive dans le développement d'un individu normalement en termes de temps. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est sûr que les expériences durant l'enfance vont avoir un impact sur la capacité à vivre ces expériences dans le quotidien empreintes de présence attentive. Donc, je m'explique. La présence attentive, là, plus spécifiquement, on la définit comme la conscience qui émerge quand on porte attention dans le moment présent à ce qui se passe, soit à l'intérieur de soi ou autour de soi, et qu'on fait ça avec acceptation et non-jugement. Donc, le fait de vivre dans un milieu à l'enfance qui est peu sécurisant, qui est peut-être instable, chaotique, on ne sait pas si on peut faire confiance à nos figures parentales, ça vient vraiment impacter cette capacité-là à entrer en relation avec le monde et avec soi de façon empreinte de présence attentive. Donc, pourquoi est-ce que le fait de vivre des traumas dans l'enfance, ça a un impact significatif aussi sur le bien-être sexo-relationnel. C'est qu'en fait, les traumas interpersonnels sont perpétrés de la part d'un être humain souvent de confiance et proche de la victime envers un autre. Et donc, les répercussions se font le plus sentir là, dans la sphère intime, dans la sphère sexuelle à l'âge adulte. Donc, voilà le lien entre un peu les trois variables puis pourquoi c'est pertinent de les étudier. L'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup socialement du potentiel de la présence attentive, en fait, pour promouvoir le bien-être et la santé dans différentes sphères, mais que, bon, quand on pratique la présence attentive, donc souvent on va faire référence à la méditation ou à du yoga, et qu'on a vécu des traumas, il y a aussi une possibilité de réactiver une forme de détresse qui a été un petit peu évitée, qui n'a pas été amenée à la conscience de la personne parce qu'elle vivait dans un milieu familial à l'enfance qui n'était pas sécurisant puis qui était trop dangereux pour permettre de vivre ses émotions, par exemple. Donc, si j'initie certaines personnes à la présence attentive à l'âge adulte, et qu'elles ont vécu des traumas, il y a un risque accru là, de réactivation post-traumatique, de détresse, même de retraumatisation. Donc, c'est vraiment important de tenir compte là, de la présence attentive, mais d'une façon sensible au trauma quand on la promouvoit pour ces raisons-là. Puis, spécifiquement aussi sur le lien entre la présence attentive et le bien-être sexo-relationnel. Bon, c'est que quand on fait référence à de la sexualité, surtout avec partenaire, c'est une expérience qui peut être vulnérable, tabou pour certaines personnes, qui peut venir chercher toutes sortes d'inconforts. Donc, cultiver sa présence attentive pendant des activités sexuelles ou rester en présence attentive pendant des moments de grande vulnérabilité comme de la communication avec une ou un partenaire intime, c'est aussi quelque chose qui est un défi. Donc, la présence attentive, dans ces cas-là, peut vraiment promouvoir un plus grand bien-être sexo-relationnel parce que la présence attentive, de par sa nature, elle vient cultiver le non-jugement. Donc, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont un niveau de présence attentive plus élevé vont avoir des relations davantage empreintes de compassion, vont avoir plus d'empathie. Donc, c'est similaire, empathie, compassion, plus de bienveillance. On va aussi sentir, en fait, moins de réactivité émotionnelle. Donc, ça, c'est vraiment prometteur dans le cas où on a, par exemple, un conflit avec une ou un partenaire intime. Le fait d'être dans le non-jugement, dans la non-réactivité, bon, d'accepter les situations sur lesquelles on n'a pas le contrôle, par exemple, c'est vraiment aidant pour les relations intimes. Donc ça, c'est un petit peu le lien, je dirais, entre les trois variables. Puis bon, là, je vais faire aussi une parenthèse, mais ce qui est important pour moi quand on étudie la présence attentive, c'est que ces outils-là, existentiels nous ont été transmis en fait par le Bouddha il y a 2500-2600 ans et ont été repris en Occident dans les 50 dernières années. On a vu vraiment un accroissement exponentiel là, des publications scientifiques et des programmes basés sur la présence attentive. Mais bon, dans la littérature, on a quand même souvent mis de côté les origines bouddhistes de la présence attentive, ce qui est pas mal en soi parce que je pense pas qu'on soit obligé d'adhérer à ce cadre conceptuel-là quand on pratique la présence attentive. C'est juste qu'il y a un danger de glissement quand on oublie de préciser les origines. Premièrement, un danger d'appropriation culturelle, puis un danger aussi d'instrumentaliser la présence attentive. Donc, je sais pas, peut-être que si vous êtes familier à la maison avec ces concepts-là de présence attentive, pleine conscience, vous avez déjà entendu des phrases comme « méditer 5 minutes par jour pour mieux dormir »,« méditer quelques fois par semaine pour avoir le meilleur sexe de votre vie »,« méditer pour apprendre à miser à la bourse ». Donc là, je vais pas non plus rentrer dans tous les détails puis toutes les technicalités parce qu'on en aurait pour des heures et des heures, mais de promouvoir la présence attentive via ces messages-là, ça met de côté les valeurs et ça met de côté l'idéologie qui était transmise à l'origine derrière ces écoles de pensée-là. Donc, il y a de plus en plus de personnes, en fait, dans les études des dernières années qui ont remis de l'avant l'importance d'aborder de front explicitement les valeurs, la culture qui sous-tendent la présence attentive pour éviter que se perde cet aspect-là transformateur, et existentiel de la présence attentive, puis qu'on en fasse une simple technique ou qu'on mélange l'aspect, par exemple, technique de relaxation et présence attentive, parce que c'est pas la même chose. Donc, ce qui a été curieux là, dans mon analyse de profil, en fait, qui avait vraiment vécu là, les différentes formes de maltraitance dont j'ai parlé plus tôt, C'est que leur parcours de trauma et de disposition à la présence attentive se sont naturellement présentés quand j'ai fait l'analyse de données comme un des enseignements importants du Bouddha, qui sont les quatre nobles vérités. Les quatre nobles vérités, en fait, c'est que la vie est souffrance. La souffrance, d'ailleurs, dans les approches bouddhistes est caractérisée soit par de l'aversion pour les expériences désagréables, de l'avidité pour les expériences agréables, ou l'ignorance de notre façon de réagir à ces deux types d'expériences-là. La deuxième noble vérité, c'est la souffrance a une cause. Donc, la cause, je viens de la nommer, c'est l'aversion, l'avidité ou l'ignorance. La troisième noble vérité, c'est la souffrance peut cesser. Puis la quatrième noble vérité, c'est il existe une trajectoire qui mène à la fin de la souffrance. Puis cette trajectoire-là, qui était enseignée par le Bouddha, elle est fortement caractérisée par la pratique de la présence attentive. Donc, la présence attentive est vraiment au cœur de comment est-ce qu'on prend conscience de nos difficultés, comment est-ce qu'on prend conscience de la façon dont on a engendré de la souffrance dans nos vies, puis comment est-ce qu'on peut guérir de ça, puis se libérer de notre souffrance. Donc, c'est intéressant pour moi de voir en fait que dans ces données-là, de personnes qui ne méditaient pas nécessairement ou qui avaient vraiment comme tout simplement vécu des parcours de vie qui étaient très difficiles, là. J'étais moi-même très émue en lisant ces histoires de vie-là, puis en les analysant. Mais donc, les données se sont comme naturellement organisées comme ça, selon ces quatre nobles vérités-là. Donc, je me suis dit, ah, ben, on va représenter ces quatre nobles vérités, on va réitérer leur pertinence, même si ce sont des nobles vérités qui ont été enseignées il y a des millénaires, c'est encore pertinent d'en parler. C'est pertinent de voir que les parcours de vie de ces gens-là s'illustrent de cette façon. Puis comment est-ce qu'on peut peut-être intégrer ces nobles vérités-là auprès des personnes survivantes de traumas cumulatifs comme ça pour favoriser leur parcours de rétablissement, de guérison? Donc, dans leur cas, à elles, ces personnes-là, comment est-ce que les quatre nobles vérités se sont présentées? C'était que, premièrement, leur historique de vie à l'enfance était une immense source de souffrance. Donc, première noble vérité, la vie est souffrance. Ensuite, à l'âge adulte, puis en fait, pas mal toute leur vie, même à l'adolescence, pour faire face au trauma, ces personnes-là adoptaient des stratégies d'adaptation qui était en fait caractérisée par de l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance. Donc, c'était des personnes qui allaient beaucoup consommer des substances, avoir toutes sortes de petites addictions comme au magasinage, à des relations amoureuses de codépendance, à la nourriture, peu importe. Puis qui allaient aussi développer de l'aversion. Donc, beaucoup. L'aversion, c'est vraiment un terme parapluie un peu pour décrire n'importe quelle réaction, un peu de recul que j'ai par rapport à quelque chose qui est désagréable, donc qui allait être vraiment en colère ou qui allait vraiment se couper de leur expérience vécue durant l'enfance, par exemple en dissociant durant les expériences sexuelles. Ça, c'était des choses qu'on pouvait voir. Donc, deuxième noble vérité. Le parcours de ces personnes-là était caractérisé par beaucoup d'avidité, d'aversion et d'ignorance. Ensuite, on avait plusieurs personnes dans cet échantillon-là qui en venaient à un moment donné où ces stratégies-là fonctionnaient plus. Des fois, soit il y avait comme une prise de conscience naturelle qui se faisait un peu de bon, tu sais, là, je pense que j'ai envie de vivre ma vie autrement. J'ai envie de vivre une vie, comme ces personnes-là vont le dire, qui vaut la peine d'être vécue. Fait que pour moi, là, consommer des substances puis m'engager dans des relations qui sont insécurisantes, ça ne fonctionne plus pour moi. Fait que des fois, il y avait une prise de conscience qui était graduelle, puis des fois, c'était carrément la vie qui décidait pour eux, un peu, si on veut dire que ça n'allait plus fonctionner. Fait que là, ils se ramassent à l'hôpital parce qu'ils ont consommé trop de substances puis ils ont peur pour leur vie. Ou, bon, ils se font renvoyer de plusieurs emplois ou ils perdent beaucoup de relations importantes pour eux ou elles. Donc, à ce moment-là, ils se disent, OK, non, c'est vrai, ma façon de vivre ne fonctionne plus. Donc, tranquillement, ces personnes-là prennent conscience que Il y a une façon nouvelle de voir la vie qui commence à s'installer et qu'effectivement, troisième noble vérité, la souffrance peut cesser. Et finalement, on avait plusieurs de ces personnes-là qui s'engageaient vraiment dans une trajectoire de libération de leur souffrance, donc qui avaient changé d'emploi, qui vivaient dans un emploi qui était plus proche de leurs valeurs, qui s'investissaient dans des relations qui étaient sécurisantes, qui avaient des pratiques de présence attentive, de méditation, d'introspection, de spiritualité. Donc, quatrième noble vérité, il y a une trajectoire qui mène à la fin de la souffrance, puis ça, c'était des personnes qui étaient définitivement investies dedans. Fait que c'est comme ça que les données de ces personnes-là se sont illustrées dans cet article.
C'est beau, c'est plein d'espoir en fait.
Ouais, mais c'est ça, c'est plein d'espoir, puis ça ramène aussi un peu à ma motivation sur pourquoi j'ai commencé à étudier ça en premier lieu, c'est que je m'intéressais pas juste à une sexualité problème, je m'intéressais aussi à une sexualité d'épanouissement ou à une vie d'épanouissement aussi, tu sais. Donc, ces trajectoires-là de ces personnes-là sont vraiment inspirantes, puis c'est pas tout le monde hein, qui parvient à ça, mais en fait, je pense que ces conclusions-là peuvent aussi nous permettre de nous dire, ben, les personnes qui restent prises dans ce cycle-là de consommation, d'évitement, de souffrance extrême, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à progresser? Parce que oui, ça existe des personnes qui ont des histoires de vie vraiment terribles, qui arrivent à passer à autre chose et à pas oublier, là, on n'oublie jamais qu'on vit ça, mais à se réinventer et à vivre une vie qui en vaut la peine d'être vécue malgré ces histoires-là. Donc ça, c'était le troisième article. C'était le profil de personnes qui avaient des histoires de vie là, les plus difficiles. Puis là, l'article que j'ai soumis récemment, que je sens qui n'est pas à 100% mûr parce qu'il n'a pas encore été révisé par les pairs et tout ça, mais je peux en parler quand même, c'est que je me suis penchée sur les analyses des personnes qui ont vécu la maltraitance psychologique et l'agression sexuelle. Donc, j'ai regardé beaucoup plus leur trajectoire dans leur relation intime à l'âge adulte, leur historique de trauma, puis j'ai regardé aussi qu'est-ce qui s'apparentait à leur disposition à la présence attentive à l'âge adulte. Et ce qui en ressort, c'est que, bon, les historiques de vie sont assez difficiles aussi. C'est des gens qui vont. Ce qui est particulier dans ce profil-là, là, c'est que les gens vont comme vraiment apparenter leurs difficultés sexo-relationnelles à l'agression sexuelle vécue, puis qui vont très rarement parler des formes de trauma psychologique qu'il y avait dans leur famille. Ils vont pas identifier que leurs difficultés sont dues au fait d'avoir été manipulés dans leur famille ou de s'être fait insulter. Il y en a vraiment pas beaucoup qui mentionnent ça. Ce qui réitère aussi que socialement, on trouve ça plus terrible de frapper un enfant, puis bon, qu'un enfant vive une agression sexuelle versus ces formes de trauma psychologique. Donc, ça caractérisait vraiment cet échantillon-là. Ensuite, ce qui les marquait selon ces personnes-là, puis pourtant, ce que les études semblent indiquer là, de plus en plus, c'est que le fait de vivre l'agression sexuelle, je ne suis pas la seule à documenter ça. Quand on a vécu de l'agression sexuelle, mais qu'on a des relations réparatrices, on arrive à quand même bien s'en sortir. Fait que ces participants-là n'arrivaient pas à identifier que les difficultés étaient peut-être dues à autre chose qu'à ces traumatismes-là, ou du moins à la combinaison, là, à l'interaction entre ces deux formes de trauma. Puis ensuite, il y en avait plusieurs, bon, qui éprouvaient beaucoup de difficultés, là, des relations intimes instables à l'âge adulte et tout ça. Puis, on avait quand même certaines personnes un peu comme les autres, là, qui s'en sortaient avec le concept qui était vraiment important dans cet article-là, c'était la croissance post-traumatique. Donc, quand on vit un événement de vie terrible, on éprouve de la détresse, mais il y a aussi des personnes qui font coexister cette détresse-là avec une transformation profonde. Et dans certains cas, il y avait des personnes qui rencontraient une ou un partenaire intime qui les faisait sentir en sécurité puis qui leur montrait à écouter leurs besoins. Puis ça leur amenait vraiment comme une nouvelle vision de la vie carrément, là, des relations intimes, puis hein, tu sais, on peut s'intéresser à moi, puis à comment je me sens, puis c'est la première fois que je me sens respectée. Fait que tout ça, ça les amène à s'investir dans une relation qui devient sécurisante et tranquillement à éprouver un bien-être sexo-relationnel qui est plus important. D'autres personnes, au contraire, qui allaient elles-mêmes s'investir dans « bon, là, j'ai décidé de consulter tout ça, puis j'ai par la suite rencontré une personne qui était bonne pour moi ou qui me donnait l'impression, en fait, que mon historique de vie me faisait plus vivre des problèmes tellement importants là, dans mes relations intimes puis dans ma sexualité. » Donc ça, c'était vraiment ce qui était prégnant là, dans ces données-là. Puis, à la différence de l'autre profil aussi que j'ai vraiment analysé profondément au niveau qualitatif, ça arrivait des fois qu'il y avait de la violence physique aussi, mais la violence physique était plus utilisée là, comme forme de punition corporelle, comme j'en parlais tantôt, en distinction de l'autre échantillon où c'était, tu sais, la violence physique était souvent utilisée de façon... comme façon de contrôler, puis même dans certains cas, c'était comme un indice de sadisme là, chez certains parents. Fait qu'on voit quand même, il y a un historique de vie qui est moins lourd là, chez ces personnes-là en général. Fait que ça fait le tour de ces différents articles.
D'accord, merci beaucoup. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des programmes d'intervention par la présence attentive pour les personnes qui ont vécu des expériences traumatiques? Et peut-être, en quoi c'est prometteur pour ces personnes-là au niveau de leur bien-être sexo-relationnel? Et quelles seraient les limites de ces types d'interventions?
En fait, les interventions basées sur la présence attentive qui existent en ce moment, là, en Occident, si on veut s'initier à la présence attentive, puis qu'on ne va pas vers des méthodes traditionnelles bouddhistes, on a des programmes typiquement qui durent 8 semaines, puis qui visent à, bon, enseigner un peu comment ça fonctionne et tout ça. Puis après ces 8 semaines-là, normalement, il n'y a pas nécessairement de suivi. C'est des interventions de groupe aussi qui durent comme 2 heures, 2 heures et demie, et durant lesquelles il y a des outils de présence attentive qui sont transmis. Mais il y a aussi beaucoup de discussions de groupe. Puis ce qu'on voit, c'est que premièrement, la structure de groupe est très importante là, pour l'amélioration du bien-être de façon significative. Ça, c'est la première chose que je pourrais dire au sujet de « est-ce que ça existe? » Donc, la plupart des interventions basées sur la présence attentive qui tentent d'intégrer une composante sensible au trauma, du moins dans celles qu'on a été capable de recenser parce qu'elles ont été publiées dans la littérature, ce qui existe, c'est beaucoup des adaptations de ces programmes-là classiques. Donc, on rajoute, mettons, un module de 2 rencontres sur de la psychoéducation par rapport au trauma. Où on rajoute quelques exercices là, en filigrane pour parler un petit peu de trauma, mais on reprend beaucoup ces structures-là très classiques de programme. Ce qu'on voit, par exemple, dans ma métasynthèse, mon premier article qui a été publié, on en a moins parlé, c'est que pour les personnes qui ont des difficultés interpersonnelles et sexuelles qui sont plus chroniques, intenses, fréquentes, etc., nombreuses, un programme de 8 rencontres, c'est pas nécessairement suffisant là, pour vraiment développer les habiletés nécessaires pour être capable après ça de rester autonome à la maison puis de continuer à pratiquer. Donc ça, c'est un premier constat. Est-ce que ça existe? Ça existe plus ou moins, là, des programmes basés sur la présence attentive sensible au trauma. On va aussi voir hein, qu'il y a 1 personne sur 10 qui va pratiquer la présence attentive et qui va vivre un effet adverse qui va impacter à long terme là, son fonctionnement. Fait qu'effet adverse, on veut dire ici, mettons, j'éprouve une détresse importante, je me retraumatise via ma pratique de présence attentive. Donc, c'est vraiment important, en fait, que ces programmes-là existent plus, mais il y en a peu. Récemment, ma directrice, Natacha Godbout, elle a été impliquée comme chercheure dans un programme fantastique que 2 intervenantes dans un CLSC de l'île de Montréal ont créé. Donc, ces personnes-là se sont énormément formées là, en termes de présence attentive, sensible au trauma. Puis, elles travaillent beaucoup en intervention. C'est bon, c'est des personnes qui ont vécu énormément de trauma, là, qui ont recours au service des CLSC généralement. Donc, elles se sont dit, OK, c'est quoi les besoins de ces personnes-là? Comment on part et tout ça? Puis, les adaptations. En fait, on n'est plus dans une adaptation des programmes classiques, là. Elles ont créé de toutes pièces, là, ces programmes-là, où, bon, les grands constats retirés, c'est qu'on a 15 rencontres. Donc, on est à presque deux fois plus de rencontres que la structure, là, de 8 rencontres. Il y a énormément de psychoéducation qui se fait sur le trauma. Il y a un apport tellement important de la personne thérapeute aussi sur le sentiment de sécurité dans le groupe et tout ça. Et les pratiques de présence attentive sont différentes. Elles sont plus courtes, premièrement, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que je vais donner un exemple un peu typique. Une personne qui a vécu des agressions sexuelles durant l'enfance, qui vit aussi beaucoup de détresse par rapport à ces événements-là à l'âge adulte. On tente de l'initier à la présence attentive, puis on lui dit concentre-toi sur ta respiration. Fait que ça, c'est un premier objet de concentration qui est très fréquent dans les pratiques traditionnelles de présence attentive. Si, mettons, cette personne-là survivante, elle se concentre sur sa respiration, ça se peut que la respiration, ça ne soit pas un espace sécuritaire, puis parce qu'elle a développé une anxiété, mettons, comme séquelle de ces événements traumatisants-là. Ça se peut qu'elle ait peur qu'elle ait l'impression que son souffle devient vraiment court là, quand elle médite, puis que c'est pas du tout un espace sécuritaire pour elle. Fait que si on fait ça, ça fonctionne pas, là. Puis une autre chose aussi, un autre objet de concentration très fréquent, c'est le balayage corporel. Donc, je vais demander de se concentrer sur les sensations dans différentes parties du corps, la tête, les bras, etc. Mais pour des personnes qui ont vécu des traumas plus corporels, il y a certaines régions du corps qui sont vraiment pas sécuritaires. Donc, si je fais ça encore une fois de façon classique, puis que je fais passer l'attention par tout le corps, de la tête aux pieds, ça se peut qu'il y ait des moments aussi qui génèrent énormément là, de détresse, puis que la personne ne sache pas comment composer avec cette détresse-là. Donc, les deux intervenantes en question, elles ont fortement remanié là, les pratiques de présence attentive qui sont incluses dans le programme et ne peuvent pas là, enseigner des pratiques comme ça, comme dans les interventions typiques. Donc, ça, c'est une première, en fait, dans les CLSC SIUS du Québec. Puis là, leur programme est en train de susciter beaucoup d'intérêt là, de la part des personnes qui interviennent dans des milieux similaires. Mais on est en train vraiment, on est dans un processus en ce moment là, d'évaluer cette intervention-là et tout. Donc, je vous dirais, ce beau programme-là se relie à nos forces pour se relever d'expériences traumatisantes, c'est ça le nom, et est une première à ma connaissance au Québec, là. Fait qu'il y en a très peu des programmes, mais ça, c'est une première initiative à laquelle on pourrait penser. Puis bon, la deuxième composante de la question, qu'est-ce qui est à retenir là, pour les personnes qui ont vécu des traumatismes? Il y a cet aspect-là au niveau des pratiques, au niveau de la psychoéducation qui est vraiment importante. Qu'est-ce que je veux dire par psychoéducation? C'est de comprendre comment un corps réagit quand on vit un trauma, comment un cerveau réagit. D'amener aussi beaucoup de déstigmatisation par rapport à des conséquences reliées au trauma, comme de se dissocier de son corps ou comme d'être super anxieuse, anxieux. C'est des conséquences tellement normales, mais chez les personnes survivantes, généralement, ces mécanismes-là vont être vraiment source de culpabilité et de honte. Fait que la psychoéducation dans les interventions basées sur le trauma sont vraiment primordiales. Et l'autre aspect, par rapport plus à la sexualité puis à l'intimité, on sait aussi que les personnes qui ont vécu des traumas ont plus de difficultés là, à s'investir dans des relations amoureuses ou intimes en général, et également à demeurer dans ces relations-là de façon stable et saine. Donc, c'est vraiment important là, quand on pratique la présence attentive, notamment à des fins de promouvoir un bien-être sexo-relationnel, de faire attention au contexte, en fait, dans lequel on recommande ces techniques-là ou dans le contexte dans lequel on souhaite soi-même s'y initier. si je suis dans une relation intime qui est fortement instable, puis que l'objectif de ma présence attentive, c'est de diminuer les conflits dans mon couple, puis de promouvoir un peu la cohésion au sein de ma relation, puis d'avoir une meilleure communication, par exemple. Bien, si j'ai une ou un partenaire intime qui ne soutient pas du tout ma démarche de présence attentive, qui trouve ça bizarre, qui n'est pas en accord avec ça, l'investissement dans la trajectoire de présence attentive peut générer l'effet inverse de ce qu'on souhaite. Fait que ça serait une première chose à regarder.
Le contexte n'est pas idéal dans ce cadre-là.
Non, exactement. Puis c'est ça. Bon, encore une fois, de tenir compte de la chronicité, du nombre de difficultés sexo-relationnelles, c'est important aussi. Puis je pense que la chose la plus importante à mettre, sur laquelle mettre l'accent, c'est vraiment de ne pas promouvoir la présence attentive comme une panacée. On n'est pas là pour donner une solution miracle qui fonctionne à court terme auprès de personnes qui éprouvent des difficultés depuis longtemps. La présence attentive, c'est un processus, une trajectoire, puis on peut pratiquer toute sa vie, puis sentir qu'il y a toujours quelque chose de différent qui travaille, qu'il y a toujours quelque chose qui change dans notre rapport au monde. Donc, c'est pas non plus, par exemple, une intervention de 8 semaines qui va tout changer là, de façon significative. Puis encore là, c'est important pour moi de dire que les limites que je soulève, là, puis qui ont été documentées dans ma métasynthèse, ça porte sur les personnes qui ont participé jusqu'à la fin aux différentes études qu'on a recensées. Là-dedans, il n'y a pas toutes les personnes qu'on a perdues en cours de route. Qui ont lâché un programme pour une raison qu'on ne connaît pas. Peut-être que si on posait des questions à ces personnes-là, il y en aurait long à dire sur qu'est-ce que la présence attentive a fait dans leur vie, puis sur les limites qu'elle a, en fait, pour leur bien-être sexo-relationnel. Fait que ça, c'est toutes les choses aussi qu'on ne sait pas actuellement, puis qui serait le fun de savoir dans les prochaines années.
Je vous remercie beaucoup, Eliane Dussault, d'avoir accepté de nous parler de vos recherches sur la présence attentive, le bien-être sexo-relationnel et les expériences de trauma interpersonnel dans l'enfance. Je rappelle que vous êtes étudiante au doctorat en sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci.